Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Les grandes gueules du sport, ce matin, avec Pierre Rabadan, avec Jérôme Pinault, avec Sarah Pitkowski, avec Pascal Duprat. Vous retrouvez la première heure des GG déjà en podcast. On a parlé de la rivalité entre la France et l'Espagne qui est en train de naître. Est-ce que c'est pas déjà d'ailleurs un classico? On était avec Fred Hermel, notre ancien correspondant en Espagne, évidemment, qui nous a parlé de tout ça dans un instant. On va parler de la finale de Wimbledon. On va revenir sur les filles aussi, hein, Sarah. J'ai pas oublié. On va revenir sur la finale 100% tchèque. Disputé hier, mais on a la finale masculine aujourd'hui entre Zverev et Sinner. Zverev qui va essayer d'enchaîner après son titre à Roland-Garros, hein. Il est en finale de Wimbledon alors qu'il n'avait jamais fait mieux qu'un huitième de finale. Est-ce qu'on peut voir un nouveau Big Three arriver peut-être dans le tennis avec Alcaraz qui n'est pas là en ce moment? Est-ce que Zverev va s'immiscer? En fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. Remportez aujourd'hui un bon cadeau de 50 euros à valoir sur Agfa Photo Print pour imprimer vos meilleurs souvenirs de vacances sur un album photo, un poster ou un mug, mais aussi développer vos pellicules et vos appareils photo jetable en moins de 10 jours et à petit prix. Pour emporter votre bon cadeau Agfa Photo Print, appelez le 3216 touche 4 ou envoyez sport au 732-16, sport au 732-16. Moi je le disais hier, je vais investir dans un appareil photo jetable pour les vacances à nouveau là. Mais pas ça, tu sais exactement bien le nombre de photos qui te restent là.
Bien sûr.
La petite molette là.
Je suis pas sûr que ce soit encore un gros marché potentiel.
Mais ça se trouve encore. Et c'est pour ça que c'est intéressant le bon cadeau qu'on vous offre. Allez, mais d'abord sur le ring, les amis, le Tour de France. On attendait la première semaine de Paul Sexas avec impatience. Il est toujours là, le classon. Vous n'avez rien raté dans l'intégral tour sur RMC.
RMC. Le ring des GG.
Paul Sexas qui arrive dans quelques instants maintenant. Les secondes qui s'égrènent. Le dernier virage, il est toujours en deuxième position devant Mathieu Van Der Poel. Et il sera devant Mathieu Van Der Poel. Ça veut dire que c'est, mal, c'est quand même bien Paul, de la part de Paul Sexas.
Ah, c'est super.
C'est sûr que c'est cool. Après les émotions, c'est compliqué sur un chrono par équipe. On est concentré. Mais voilà, je me sentais bien. Je suis content de l'équipe.
Tadej Pogacar, évidemment, il suit son coéquipier. Jonas Vingegaard est bien dans la roue. Surtout, Paul Sexas semble en forme. En tout cas, Paul Sexas est dans la roue de Jonas Vingegaard, c'est difficile.
Parking pour Vingegaard. Il n'y a plus personne, ils sont plus que deux.
Non, bah ça y est, c'est terminé.
Aïe, 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 compliqué pour Paul Sexas, notre prodige français qui là, eh bien, se mesure au Cador dans ce premier grand col du Tour de France.
Et le sprint pour la troisième place, évidemment, c'est Remco Evenepoel qui a lancé ce sprint, bien suivi par Isaac Del Toro derrière. Ils ont fait le trou, les deux hommes, parce que Juan Ayuso, Paul Sexas n'arrive pas à suivre. C'est Isaac Del Toro qui est parti. Isaac Del Toro qui va remporter cette troisième place devant Remco Evenepoel, devant Paul Sexas.
C'est très dur, honnêtement. Ça allait plutôt pas mal. J'ai géré ma montée. Et voilà. Une petite place à l'arrivée, c'est pas mal.
Est-ce que tu connais Paul Sexas, toi?
Oui.
Tu le connais parce qu'il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait, Paul?
Pédale.
Ben voilà, ça veut dire quelque chose, ça, quand même. Hein. Que les gamins commencent à reconnaître les champions. 3 ans l'âge, apparemment. Voilà, on connaît Paul Sexas à cet âge. Allez, derrière l'extraterrestre Pogacar sur sa planète. C'est vrai que le Français a passé sa semaine avec les meilleurs humains, j'ai envie de dire. Avant le départ aujourd'hui de la 9e étape accidentée entre Malmort et Ussel, à vivre dans l'intégral tour sur RMC cet après-midi. Le coureur de 19 ans pointe à la 5e place du général, dans le même temps que Del Toro, celui que tu adores appeler Torito, Jérôme, même temps que Evenepoel, que Lipovic et Ayuso, à seulement 19 secondes de Vingegaard, deuxième du général. Bon, il y a accessoirement un 2,57 de Poggi, mais ça, bon, c'est vraiment important. Les GG, je vous pose cette question. Est-ce que Paul Sexas est bluffant après sa première semaine? J'ai trois noms que vous me confirmez, hein. Pascal, Pierre et Sarah. J'ai un oui, celui de Jérôme. On est d'accord, vous validez vos réponses? Ça bouge pas?
Oui.
Oui. Sur le compte X des GG du sport où vous votez depuis ce matin, vous dites non à 61%. Pour l'instant, Paul Sexas n'est pas bluffant. En tout cas, pour vous, après cette première semaine, on vous attend au 32-16. Et pour en parler sur WhatsApp au 06 12 424 424, par exemple, Sylvain qui me dit à 19 ans, il est à sa place. On en parle dans un instant. Léna Marjac suit Paul Sexas à la trace depuis le début du tour pour RMC. Elle est peut-être même au petit-déj avec lui d'ailleurs, sait-on jamais. Salut Léna.
Salut Georges, salut tout le monde. Oui, je mange une omelette avec Paul là, en ce moment.
Allez, bon app, Polo. Attention quand même à pas mettre n'importe quoi dans l'omelette. C'est évidemment une banne. On dit quoi dans son équipe, Léna, pour l'instant? On est là où on voulait être?
Oui, que l'on est dans les clous, vraiment insiste le staff concernant Paul Sexas. C'est vrai qu'après 8 étapes, le Lyonnais a très très bien réussi le test de la première semaine. Déjà, il a dompté le Tourmalet sans trembler. Il l'a gravi en 3e position, juste derrière Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, c'est déjà dire de la performance. Il a géré aussi les premières étapes de sprint où ça joue des coudes, où ça frotte, et ça l'a d'ailleurs marqué parce que mercredi dernier, après la victoire de son coéquipier Olaf Koy, Paul est arrivé un peu paniqué. Ils sont fous, a-t-il dit en parlant justement de tous ces coureurs. Et voilà, c'est ça de découvrir un premier Tour de France à 19 ans. Julien Jourdi, d'ailleurs son directeur sportif chez Decathlon CMA CGM, n'est pas forcément très surpris de ce qu'il se passe avec son coureur.
Normal, je ne sais pas si c'est le mot, parce qu'à 19 ans, se retrouver 6e du Tour de France, faire 5e étape pyrénéenne, faire 4e d'une étape également au début du Tour. Voilà, il n'y a rien de bien normal avec Paul Sexas. Voilà, mais on est dans les clous, hein. C'est bien déjà pour l'équipe, hein. Une victoire, un podium, une place de 4, une place de 5. Voilà, on est vraiment dans les clous, c'est une belle semaine.
Alors maintenant, place à une nouvelle inconnue pour Sexas. C'est l'enchaînement d'une deuxième semaine de course. Lui n'a jamais dépassé les 8 jours d'effort. Donc maintenant, ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui sera tout nouveau pour lui aussi. Et pour gérer tout ça, il est évidemment encadré. Il est protégé, même beaucoup, beaucoup protégé. La preuve, tout est pensé autour de lui. Très peu de prise de parole avec les médias. Peu de temps avec le public aussi. Il signe quelques autographes le matin et le soir avec d'ailleurs un stylo de l'équipe qui est désinfecté avant et après utilisation. Car évidemment, tout le staff éviter un virus.
Merci beaucoup Léna, super intéressant toutes tes informations. Évidemment tu lui passes des fruits aussi hein, parce que c'est pas juste les protéines avec l'omelette, c'est pas suffisant. Fais attention à toi Polo et à tous les virus. Est-ce que c'est que ça c'est bluffant après sa première semaine? Pascal, pourquoi tu dis pas bluffant pour toi?
Eh bien, tout simplement parce que nous avons des experts aux grandes gueules, donc je les cite, hein, Christophe Cessieux, les deux Jérôme, Christophe Marc, Madio. Ouais, donc ça fait 6-8 mois qu'ils me parlent de Sexas, ils me disent que c'est un haut potentiel, qu'il est un futur grand. Et donc à partir de ce moment-là, bah, moi, Paul Sexas, je le trouve dans les clous. Et presque une pointe de déception, tellement mon impatience de le voir, eh bien, pourquoi pas titiller Pogacar, puisque Vingegaard n'y arrivait pas, je pensais que Sexas aurait peut-être pu le titiller.
De quoi, dans l'état des Pyrénées, tu voulais qu'il suive un peu plus Pogacar?
Oui, et donc à partir de ce moment-là, parce que on a placé de fortes attentes justifiées en ce coureur qui est en plus un garçon qui me semble génial dans son approche de son métier, mais aussi dans sa manière de s'exprimer. Eh bien, moi, j'ai juste envie. Je suis impatient. Je suis impatient parce que je vieillis et j'ai envie de le voir. J'ai envie de le voir. Donc, il est là. Il est bien là. Bravo pour ce qu'il fait. Mais ça m'impressionne plus.
Oui, ça, ah ouais. T'es pas bleu, Jérôme. Non,
désolé, c'est de ta faute, Jérôme.
Non. En fait, t'as trop ambiancé, étonné, Pascal.
Je suis très c'est étonné faute, parce que Pascal et moi, on s'est liés d'amitié parce qu'on a un point commun, c'est qu'on aime les gens. Ouais. Et là, je suis c'était étonné que Pascal réagisse comme ça.
Mais parce je l'aime. Que
tu peux être étonné, tu peux être ne pas être étonné, ne pas être surpris. Mais rester bluffé. À chaque fois que je te vois, ma Pascal, ça m'étonne pas que t'aies la classe, tu sois un beau gosse. Mais je suis bluffé à chaque fois que je te vois.
Là.
Et c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on pouvait s'attendre à de telles performances. Mais ça reste bluffant. Ça reste bluffant parce qu'il a que 19 piges. Ça reste bluffant parce que quand il pète une roue dans les 20 derniers kilomètres d'une étape à Barcelone, le mec, il panique pas. Et ça reste bluffant parce que quand il y a Pogacar qui fait un train, dans une bosse à Montjuïc, il met son mec devant, puis finalement il lui parle à l'oreillette, il lui dit non, Tige, je vais pas attaquer, je la sens pas, si je la mets, elle est pour rien. C'est un mec qui essaye de suivre Pogacar dans le Tourmalet à 19 ans, il laisse partir le meilleur coureur du monde, et le deuxième meilleur coureur du monde, il dit je vais pas paniquer, je vais gérer mon truc. C'est un
tu
mec qui répond à la presse.
Maîtrise, dans sa maîtrise de la course.
Il est bluffant de maturité, il est bluffant de maturité, il est bluffant dans sa gestion, il est bluffant dans son attitude. On a l'impression d'avoir un mec qui a 30 piges, qui a fait 5 Tours de France, et il en a que 19. Et c'est là où il est bluffant. Oui, on s'attendait à plein de choses. Oui, on s'attendait peut-être même à mieux dans la première étape des Pyrénées. Mais moi, je vis tous les jours sur le Tour depuis le départ. C'est incroyable. La Sexas Mania, mais c'est même pas tant les gens sur le bord de la route, parce qu'on fait tout pour pas qu'ils viennent. Mais dans la caravane, dans les parmi les médias.
Oui, il faut gérer ça aussi. Il arrive à le faire.
Il le gère à la perfection. Ouais. C'est là où il est bluffant. C'est là où il est bluffant.
Il t'a convaincu. Il est convaincant, hein, Jérôme, hein, Pierre. Mais
ouais, il est convaincant, mais je pense qu'on n'est pas loin d'être d'accord. Le sujet, c'est est-ce que c'est surprenant.
J'ai pas toujours été convaincant avec Pierre. Tu vois, c'est dommage.
Hein, à un moment donné. Mais l'espoir fait vivre encore.
Ouais. Là, non, ça y est, j'ai fini d'espérer là.
C'était presque convaincant. Là. Mais c'est plus que moi, je suis pas bluffé parce que. Je m'attendais en fait à ce qu'il soit là où il est aujourd'hui. Alors après, est-ce qu'il fallait qu'il soit plus haut? Est-ce que il a affiché tellement de maturité, de maîtrise que déjà aussi le process pour décider d'aller sur le tour, etc.
Ça, il faut le faire quand même, Pierre. La semaine dernière, Marc Madiot nous disait, la première semaine, c'est éviter les pièges.
Mais bien sûr, il y a plein de pièges à éviter. Mais là, ce qu'il a fait en première semaine, pour l'instant, je m'attendais à ce qu'il fasse ça. Voilà. Mmh. C'est en ça que je suis pas bluffé. Mais après, c'est exceptionnel, évidemment. Mais pour moi, ça m'a pas bluffé.
Mmh. Mais tu vois, t'as pas vu des jeunes joueurs parfois arriver dans ton équipe arrivent à haute altitude, même si tu les attendais, malgré tout, à répondre à la pression.
Oui, mais regarde, il y a une couverture médiatique légitime tellement forte depuis l'année dernière sur Sexas. Depuis qu'il a émergé, qu'on s'attendait à ce qu'il ait cette maîtrise. Il est intelligent, il a du recul, mais c'est vrai que c'est satisfaisant de le voir bien faire. Mais bien sûr, moi, je m'attendais pas non plus à ce qu'il mette 2 minutes à Pogacar.
Oui. Donc voilà, en fait, donc, il est là où tu l'attends. C'est vrai que c'est un peu.
Je l'attendais. Ouais.
C'est un peu voilà, c'est les messages que l'on a sur WhatsApp. Même si Vincent est un peu d'accord avec toi, Jérôme, il dit non, mais vous rendez compte, à 19 ans, normalement, il est dans le canapé à sa place. En fait, il est pas là sur le tour pendant 3 semaines. Hein. Moi, je suis assez d'accord avec Jérôme. Hein. C'est vrai qu'il faut pas banaliser, même si on a vu une saison où il nous a habitués à se battre avec les meilleurs et notamment avec Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège. Ce qu'il arrive à faire et à maîtriser notamment son euphorie. Souvenez-vous, on parlait de sa difficulté peut-être à gérer son euphorie, comme on l'a vu sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes où il se met à la faute et il chute. Là, il a réussi à maîtriser ses émotions pour ne pas faire n'importe quoi justement et arriver à la fin de cette première semaine en étant à la hauteur. Ouais, Jérôme.
C'est là où on détecte les génies. C'est-à-dire qu'ils apprennent 2 fois plus vite que les autres. Une erreur et ça y est, c'est fini. Ils ont compris, ils font autrement. Ça fait 10 jours hein, qu'il est sur le tour. Léna le dit, il va découvrir maintenant ce qu'il ne connaît pas. Oui, au-delà d'une semaine de course, il connaît pas. Mais ça fait pas une semaine. Ça fait 10 jours. Ça fait même 3 mois qu'il est sur le tour, puisque depuis qu'il a annoncé qu'il était là, on lui parle que de ça. Et en plus, il est en fin de contrat l'année prochaine et on lui parle que de ça aussi. On annonce des chiffres. On le met partout dans toutes les équipes. Il y a même des équipes qui n'ont pas vu le jour qui vont peut-être l'embaucher.
Ah bah, question, toi, à son manager de l'extérieur la semaine dernière. La question lui a été posée sur France Télévisions cette semaine en plateau sur son avenir. C'est vrai qu'il doit gérer tout ça aussi. Et il le gère.
Eh oui, il le gère à la perfection. Il est stoïque devant tout ça. Il a un plan pour tout. Il ne s'emballe pas. Il ne fait pas de mauvaises déclarations. Il n'a pas de mauvaises paroles. Il n'a pas de mauvaises phrases. Il n'a pas de mauvais gestes.
Oui, mais Jérôme, il est bien là où il est content.
Sarah.
Ce qui est bluffant, ouais. Ce qui est bluffant, c'est qu'il semblerait qu'il ait un contrôle parental sur son téléphone qui est plutôt pas mal parce qu'il a pas ses réseaux sociaux.
Ah oui, il a dit qu'il avait pas ses réseaux.
Donc, ouais, qu'il avait pas accès à ses réseaux. Ouais. Donc ouais. Il a un super contrôle parental. S'il pouvait nous le donner, ça m'arrangerait aussi.
Le contrôle parental, c'est ses parents et justement et les gens qui le protègent. Moi, je suis épaté par les gens autour de lui parce que eux ne s'emballent pas. Quand je vois certaines personnes dans les paddocks ou dans la ZT qui touchent plus terre parce qu'ils portent un polo d'une marque ou d'une autre, et les gens qui entourent Paul sont d'une simplicité déconcertante. Et c'est aussi ça qui fait que ce gamin
garde la tête. Tu trouves que Christophe Sessieux
se la raconte avec son polo RMC, c'est ça?
Non, on a quelques voisins qui ne touchent plus le sol. Tu les connais.
On l'embrasse.
Moi, ce que je trouverais bluffant, je suis tout à fait d'accord avec Pascal, même si je suis beaucoup, 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 beaucoup plus jeune que Pascal. Je suis impatiente.
Elle se marre de sa vacherie. On est tellement pas habitués.
Lui, se marre aussi.
Et Sarah, ces dernières semaines, elle nous surprend. Hein. Une vacherie,
elle était exceptionnelle.
Je rappelle qu'elle était au Hellfest. Elle était au Hellfest également il y a 2 semaines, un festival heavy metal.
Ouais, c'est ça. Ça m'a transformé.
C'est ça.
Ça m'a transformé. C'est doit être ça. Mais je serais bluffée. Et d'ailleurs, dans le son qu'on a entendu, en fait, il est là où il doit être sur cette première semaine. Ce qui pourrait sembler bluffant, enfin, là où il y a une grande inconnue, c'est qu'il a jamais fait de grand tour sur 3 semaines, en fait, Jérôme. Donc, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine et la dernière semaine, puisque l'objectif, c'est d'aller arracher un podium? C'est là où on pourrait être bluffé par rapport à ce qu'on ne connaît pas encore de lui, en fait. Tout ce qu'il nous a montré depuis le début de la saison, c'est dur à dire.
C'est le tour, mais, Sarah, mais c'est le tour. Tu connais trop le tour pour dire ça. Il est là où il est, même à 10...
Mais oui, mais je suis un peu gênée même de te dire que je suis pas bluffée, mais je le serai quand j'aurai vu ce qu'il est capable de faire à 19 ans sur une deuxième, une troisième semaine d'un grand tour.
Parce que là, c'est maintenant qu'on va vraiment savoir, en fait, Jérôme, parce que
j'ai eu l'honneur.
Paul Sexas, il a jamais fait 2 semaines ou 3 semaines de tour. T'as eu l'honneur de quoi?
J'ai eu l'honneur de discuter de cela avec.
Prendre un petit déj avec lui.
Son prédécesseur, celui après qui il court, et celui que l'on présente comme l'héritier, puisqu'on a eu Bernard Hinault il y a 2 jours sur le plateau, dans le studio.
Et la semaine dernière, dans les grandes gueules.
On a posé la question à Bernard, et on lui a demandé, Bernard, franchement, toi qui étais né pour faire du vélo, t'étais un génie. Quand tu as commencé ta carrière, est-ce que à l'aube de ton premier grand tour, c'est-à-dire 3 semaines de vélo, t'as douté un instant que 3 semaines c'était trop long pour toi? Bon, il a pas fait les phrases, il a pas fait de la poésie,
comme d'hab.
Bah non, j'ai jamais douté. Voilà. Et ben c'est ça en fait, parce que les grands comme lui,
le contraire m'aurait étonné.
En fait, c'est pas un problème pour lui. Alors lui, il va l'expliquer comme ça et on l'aime pour ça, Bernard. Mais en fait, c'est pas un, quand t'es fort.
Oh, le blaireau.
C'est en troisième semaine que t'es le plus fort. Donc lui, il a pas peur de ça en fait.
Ouais. Cela dit, Jérôme, tu vois, je trahis au travers de ma réponse. Et de mon nom, en fait, il me bluffe pas. Je trahis ma déception de voir un grand champion, Pogacar, écraser tout le monde.
Oui, en fait,
si Pogacar n'était pas là, si Pogacar n'était pas là, franchement, tu t'imagines le nombre de coureurs après une semaine dans une poignée de secondes, là, comme il serait exceptionnel ce tour.
Exactement.
Oui, pourquoi il est venu, Pogacar, cette année?
Mais tu sais, ça donne aussi raison à tous ceux qui disaient qu'il fallait que Paul aille sur le Tour de France dès cette année. Parce qu'il y avait aussi des gens qui disaient, bah non, il faut qu'il attende, dont Cyril, que l'on salue.
Cyril Guimard
qui disait faut aller au tour quand t'es sûr de le gagner.
Bon, et Marc,
même Bernard hier nous dit bah non, parce que s'il attend que l'autre soit plus là, il va faire son premier tour en 2030. Bah oui, parce que l'autre il est tellement au-dessus que si tu vas pas maintenant, tu apprendras jamais.
Ah, il a changé d'avis, Bernard, quand même, parce qu'il disait pas tout à fait ça il y a quelques jours.
Oui, il a un peu fait évoluer son avis. Ce qu'on s'est dit tous, et par contre Pascal, c'est que le jour où il plie, le jour où il a un problème, le jour où il est malade, le jour où Urska lui dit je te quitte si tu rentres pas
la
demain.
La campagne de Paul. De Pogacar.
Eh ben, ouais. Non, ouais. Ouais,
attention.
Pas de Paul.
Ah, attention. Attention, Georges. Hein.
Il faudra être celui qui est juste derrière, celui qui est prêt pour prendre la place. Et donc là, Paul, il est en train d'apprendre sagement, dans l'ombre. C'est difficile.
Non, mais on espère là, t'es tous en train que de me le jour où les prochaines étapes. T'as envie que je reste devant la télé de la première à la dernière minute.
Mais tu n'es pas devant la télé, Pascal.
Ça n'arrivera pas.
Tu écoutes la radio.
Ça n'arrivera pas cette année, à la troisième étape.
Et tu tombes toujours dans le panneau, Pascal, parce que tu es trop enthousiaste. On la connaît, l'histoire.
Oui, mais parce que les experts, ils sont toujours en train de me dire Pogacar, il est imbattable. Donc, en fait, quelque part, ça m'agace un peu. Parce que n'importe quel sportif n'est pas imbattable.
Est-ce que même pour aujourd'hui, ça peut être une journée piégeuse? On sait que c'est très accidenté, Jérôme, en 185 km. Alors, 32 moins, du coup, de la chaleur entre Malmort et Ussel. Il y aura aussi mardi après la journée de repos Aurillac-le-Lioran aussi là. C'est deux étapes un peu rock'n'roll, j'ai envie de dire.
Bah écoute, les 80% du peloton vont me détester s'ils écoutent RMC, mais si j'étais à leur place, les Visma, les AG, les Decathlon, CMA, CGM, et tous les adversaires avec Remco ou Lipovitz, bah je mettrais le bordel aujourd'hui. Évidemment, c'est sur ces étapes-là qu'on peut essayer de le piéger. Même si quand il va
taper Hinault hier, il t'a dit il faut mettre le bordel, hein.
Ah oui. Et boum, il aurait dit. Et boum, je dirais le blaireau. Non, mais c'est sûr que c'est une étape piégeuse. Il faut tenter des choses. De toute façon, si on le harcèle pas, on va pas y arriver. Et puis surtout, ce qui leur pend au nez, c'est que il va courir pour Del Toro. S'il n'arrive pas à faire éliminer Del Toro parce que Del Toro est en panique, parce que il faut faire travailler Del Toro pour et le sacrifier au profit du Slovène. Bah si ça roule comme ça jusqu'à Paris, ils vont faire 1 et 2. Hein.
Bon, et 30 km en moins, ça, Pierre me demandait si ça changeait grand-chose, c'est ça Pierre,
ouais,
tu me disais.
Je me demandais quelle était la portion déjà qui avait été réduite. C'est sûrement au départ, je crois, ce qu'on
ouais,
disait.
Ouais, c'est la boucle du départ, ouais.
Est-ce que ça a un vrai impact pour toi sur les coureurs? Est-ce que faire 30 km de moins plutôt sur le départ ou c'est voilà une adaptation qu'il faut faire vu la chaleur, mais bon.
Est-ce que c'est le meilleur plan anti-canicule?
Je sais pas, attends, je vais poser la question.
C'est toujours des décisions difficiles à prendre et puis il faut faire en sorte qu'on soit dans l'opinion publique et dans la mouvance actuelle. Tu la connais la politique, Pierre. C'est on fait et puis on s'adapte et puis faut surtout se plier à ce qu'on dit et donner l'exemple. Enfin, essayer. De façade. Le tour ne peut pas aller à l'encontre de l'opinion générale, de se protéger, de faire attention.
C'est pour le public.
Alors, 30
aussi,
km hein. en plus, 30 km.
Ouais, de quoi mais 30 c'est pour km le en aussi. Moins, ça change quoi
le public
oui,
sur
oui,
le bord
30 km en ouais. moins, pour un coureur cycliste, clairement, ça ne change rien du tout.
Ah ouais, ouais.
Mais,
ouais
mais c'est une décision.
Alors que pour nous, c'est une décision. Moins sur le vélo.
C'est une décision
40
politique
minutes de moins
et
sur le vélo.
Et c'est tout.
Jérôme, oui. Dis-moi, aujourd'hui, Sexas, on a une chance de le voir attaquer.
Ah, mais tu vas regarder finalement. Tu vas écouter.
Bah,
alors,
oui. Je vais l'écouter.
Vas-y, je te dis quelque chose. Tu fais la sieste, mais tu mets la radio très fort. Et quand t'entends attaque de Lipovitz ou Evenepoel, tu te réveilles parce que Paul Sexas, il ira. Si
oh
la bataille
là
des.
Là
ah,
là
si,
okay,
les grands, merci. Si les grands se mettent dessus, alors je pense plutôt à l'étape du Lioran. Hein. Aujourd'hui, ça va plutôt être pour un baroudeur, des échappés. Mais le Lioran peut être une étape où ça bastonne un peu. Et là, Paul rentrera dans la danse si les grands s'en mêlent. Ouais.
Il est fort, hein, Jérôme. Il peut vraiment vendre.
Ah,
je vous écoute.
Il peut
vendre n'importe quoi.
Moi, j'ai une autre question. Jérôme, est-ce qu'il va essayer de gagner une étape? Ou est-ce que c'est on peut pas on peut pas jouer une étape et protéger son classement.
Bah, il va commencer à jouer les étapes, Sarah, quand il aura un peu plus de retard au général et que s'il arrive.
Okay. Il peut pas jouer les deux tableaux en même temps.
Non mais s'il est il peut faire podium à 8 minutes. Hein. C'est ça, hein. C'est ce qui peut se passer.
Bah, oui, oui.
Il peut faire troisième du tour à 8 minutes.
Mais on s'en fiche combien.
Il finit chez lui.
On s'en fiche qu'il soit à 8 ou à 7 minutes ou à 3 minutes.
Il finit avec 4 jours très difficiles et dont les deux derniers jours, on passe à Alpe d'Huez à 3 reprises sur 2 jours.
Ouais.
Donc là, oui, effectivement, je pense que sur cette fin de tour, s'il en a encore les cannes et qu'il est placé au général mais loin en temps, bah, il pourra jouer une étape. Mais si tu me demandes s'il va gagner l'étape entre Malmort et Ussel, non.
Ouais.
Paul Sexas vous bluffe-t-il après sa première semaine? Résultat sur le compte X des grandes gueules du sport. Ça n'a pas bougé. Vous dites toujours non à 61%. Ça veut dire qu'on n'a pas tellement d'influence, Jérôme, toi et moi. Finalement.
Non, on n'est pas bon.
Écoute, ça, on est peut-être meilleur.
Ah, mais c'est Pascal, il a une telle communauté, il a tellement de followers sur tous les réseaux.
On n'a pas d'influence non plus, ça n'a pas bougé.
Ouais. Alors, non, mais on rappelle surtout ce qu'a dit Jérôme, c'est surtout toi qui n'a pas bougé, Pascal, toujours aussi beau gosse.
Eh oui. Toujours aussi impressionnant.
Jérôme, merci
pas
beaucoup.
Pas bluffant.
Impressionnant, carrément. Pas bluffant, mais impressionnant. Jérôme, merci beaucoup. On se retrouve avec toute l'équipe
merci,
de l'Intégral Tour.
Merci.
Tout à l'heure, ciao, évidemment, 13h pour l'étape entre Malmort et Ussel, rabotée de 30 km à cause de ce que vous vivez tous, Français, Françaises, en ce moment, la canicule, on fait attention pour les coureurs du Tour de France. On revient dans un instant, on va aller de l'autre côté de la Manche, Wimbledon avec la finale Zverev face à Sinner. Est-ce qu'on n'aurait pas là peut-être à nouveau un Big Free peut-être dans le tennis? Allez, on revient dans un instant sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, on a laissé Jérôme Pinault avec une musette, hein, vous inquiétez pas, s'alimenter et s'hydrater comme vous devez le faire vous toutes et tous, hein, d'ailleurs ce week-end à cause de la canicule. On fait attention évidemment, mais toujours à l'écoute des RMC et de l'Intégral Tour pour vous accompagner bien sûr. On est avec Pierre Rabhadan, on est avec Pascal Duprat, avec Sarah Pilkowski bien sûr. Dans un instant on va remonter le temps, les GG en 2006, le seul France-Espagne en Coupe du Monde avec Zidane qui a avait envoyé la Roja à la retraite et pas l'inverse. Alors on va se faire kiffer, hein. Voilà, on va se faire kiffer tout simplement. Ou on va faire nos vieux cons, comme m'a dit Pierre Rabanan hier au téléphone, puisqu'on est là tout simplement pour se dire les choses. Mais d'abord, le tennis, c'est un peu raison quand même. C'est un peu ça, ouais, putain, c'est bien. Hein. Tu vas voir quand on repassera une victoire du Stade français en top 14, tu diras, ouais, c'est pas mal quand même.
C'est déjà le cas, ça remonte à quelques années.
Ah oui, ça ne nous rajeunit pas. Hein. 28 ans depuis la finale de 98, hein. On s'est dit ça ce matin, jour pour jour. Ça fait mal. Allez les amis, le tennis, c'est la finale masculine de Wimbledon aujourd'hui entre le vainqueur sortant Yannick Sinner et le récent lauréat de Roland-Garros Alexander Zverev. À suivre sur RMC évidemment cet après-midi, l'Allemand qui a enfin gagné un grand chelem est-il enfin lancé à 29 ans vers les sommets? Punchline au micro RMC d'Eric Salio sur place.
RMC, la punchline GG.
Once you win a major, you know how to do it and you feel like you can do it again.
Une fois que tu gagnes un grand chelem, tu sais comment le faire et tu as l'impression de pouvoir le refaire. Ce sentiment est en toi. La deuxième chose, j'ai l'impression d'avoir beaucoup travaillé sur mon jeu. Lorsque vous améliorez votre coup droit, votre revers, votre service, votre retour, vous allez gagner plus de matchs. C'est parfois aussi simple que ça.
Sometimes as simple as that.
Sacha Zverev qui nous dit quand même que c'est pas pareil quand on a gagné, hein. Tu connais la route, les choses sont différentes évidemment. Les GG, je vous pose la question, Zverev enchaîne, est-ce qu'un nouveau Big Free. L'accent est terrible. Est-ce qu'un nouveau gros 3, c'est-à-dire un triangle de un podium, enfin vous voyez l'idée quoi, trois grands joueurs qui dominent.
Ouais, en espagnol tu te la pètes. Vraiment...
Dis-le en espagnol, ça va être mieux.
Est-ce qu'un grande tres?
Ah, c'est mieux.
Attendez, en fait, je voulais pas vous humilier, mais je peux tout à fait dire Big Three. Peut émerger en tennis. Qu'est-ce que vous dites, Pierre? T'y crois ou pas?
Non.
Sarah?
Moi, j'y crois.
Oh, Pascal?
Oh que oui, je crois.
Ah bah ça y est, Pascal, enthousiaste devant l'éternel, il est de retour. Ça me faisait peur avec ça. J'ai eu peur quand t'es perdu. On vous attend au 32-16 et sur WhatsApp, évidemment. Tiens, Eric Salio est avec nous depuis Wimbledon. Salut, Eric.
Good morning, répète après moi, 15 love.
Eric, bah tiens, on va commencer avec toi, t'es sur place, tu l'as vu tous les jours, t'as vu les conférences de presse, tu l'as vu à l'entraînement, il a changé, est-ce qu'un Zverev nouveau est arrivé, est-ce que tu le vois sous tes yeux depuis le début de Wimbledon?
C'est plus le même homme, je suis d'accord, il avait ce sentiment d'avoir raté sa carrière jusqu'à ce sacre à Roland-Garros. Il attendait depuis tellement longtemps un titre. On se souvient de ses larmes à l'Open d'Australie en 2025 lorsqu'il avait perdu sur Yannick Sinner. Sinner qui était allé le réconforter presque. Mais oui, ce qui s'est passé à Roland, ça te change un homme, forcément. Maintenant, le joueur n'a pas forcément évolué. Je précise qu'il a eu un tableau assez favorable, hein. Il a joué Fritz blessé en quart. Arthur Ferry en demi, bon, il était un peu cramé dans sa tête.
Ouais, le Britannique.
Le vrai test, c'est tout à l'heure. C'est la finale. S'il remporte la finale, alors là, oui, là, il y a un gros changement dans notre petit monde de la balle jaune. Mais j'ai une stat qui est terrible pour lui. Jamais un joueur n'a gagné ses deux premiers grands chelems coup sur coup. Donc, le débat.
Ah oui, j'aime bien quand tu viens avec des stats pour flinguer le débat. Ouais. Pierre, t'y crois pas trop, toi?
Non, j'y crois pas trop.
Zverev s'installe vraiment à la table durablement?
Ben, non, parce qu'il a passé une étape très importante, évidemment. Il l'a très bien décrite. Hein. Quand tu l'as fait une fois, tu te dis que c'est possible de le refaire et c'était un plafond de verre pour lui. Mais je le vois vraiment en dessous encore de Sinner et Alcaraz. Et donc pas en capacité de challenger leur hégémonie pour l'instant. Donc pour moi, il progresse. Il a passé un cap psychologique, mais il est pas encore en capacité de venir contester.
Parce que pas le talent des autres peut-être. C'est-à-dire que c'est bien le cap psychologique,
pas
mais
le talent, pas le mental, pas encore assez armé. Même si je pense qu'il a passé un cap important.
Mais oui, parce qu'il avait fait jusqu'à maintenant que 8e de finale à Wimbledon. Ouais, Pascal.
En fait, tu le dis, Pierre, il a passé un cap et il a gagné un tournoi du Grand Chelem. Donc, si jamais il venait en gagner un deuxième, on pourrait considérer que, ben, même mentalement, les déficiences qu'on lui connaît, techniquement, même si on peut considérer, je suis pas un spécialiste, qu'il est moins bon que les deux autres, mais malgré tout, s'il venait à gagner un deuxième Grand Chelem, je crois que
Pierre croit pas trop au deuxième, en fait. C'est surtout ça, je pense.
Ah, mais on peut pas anticiper le coup. On peut pas anticiper le coup. Il faut peut-être attendre. La question, elle est pertinente. Georges. Merci. Moi, je voudrais voir ce cas de figure. Alors, bien sûr, Sinner, il est impressionnant, mais et s'il venait à gagner, il s'assoit quand même à la table des deux grands.
Non, mais c'est vrai.
Et la musique n'est pas la même.
Même sans gagner.
Moi, c'est là où je rejoins un peu Pierre. C'est vrai que j'ai un peu du mal à croire la métamorphose complètement, Sarah. Franchement, genre d'un coup, tu deviens un super crack comme les autres.
Non, mais en fait, la question, c'est est-ce que c'est légitime aujourd'hui d'associer Zverev à ce trio de la hiérarchie mondiale du tennis, en fait. Dans la question, ça veut pas dire est-ce qu'il va battre chaque semaine Nadal Sinner ou
Alcaraz.
Ou Alcaraz, en fait. C'est parce que je vais vous faire une comparaison. On a eu le Big Three avec Djokovic, Nadal, Federer.
Tu l'as bien dit.
Et puis, il y a un moment... T'as vu comme je l'ai bien dit? Et attention, et derrière, on a eu un Big Four.
Wow.
C'est-à-dire qu'on y a associé Andy Murray à un moment. Andy Murray, et pourtant Andy Murray a toujours été en dessous des trois autres en termes de confrontation, même en termes de grand chelem. Pardon de le dire comme ça, c'est terrible, il n'a eu que trois grands chelems. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, Zverev, s'il joue le tennis qu'il a, de toute manière, il doit y avoir un fossé avec les joueurs derrière. Et il est dans l'entre-deux. Donc en fait, le fait qu'il ait gagné ce tournoi de Roland-Garros, forcément, ça va changer l'homme. Il va prendre conscience de ses capacités, ce plafond de verre a sauté. Et il peut aller en chercher un autre. Alors peut-être que ce sera un moment où il n'y aura pas Alcaraz, ou au contraire, il y aura Alcaraz. En tout cas, moi, je trouve que c'est légitime de construire ce Big Three comme on a construit un Big Four. Et pourtant, Murray est venu le faire de manière temporaire.
Ouais, mais le truc,
et après il est ressorti.
Sarah, est-ce que vraiment pour beaucoup le Big Four a pas existé en fait avec Murray qui était là.
Si il a existé.
Mais, non mais
il a totalement
tu
existé.
Tu l'énerves.
Il a existé sur la longueur
au-dessus des autres. Enfin
oui, mais dans les années 2010, entre 2010 et 2014, si le Big Four a existé. Si, non, franchement, et c'est pas que pour les spécialistes de tennis, parce que Andy Murray, il est allé les battre, il est allé chercher son Wimbledon.
Mais ça veut quand même dire que tu mets un cran en dessous, Zverev, en fait, quand tu l'associes à Murray.
Oui, je le mets un cran en dessous, mais c'est pour ça que j'utilise le terme légitime de l'associer au trio. Ça veut pas dire qu'il va les battre toutes les semaines, mais il a le tennis pour le faire, il en avait pas conscience maintenant, et puis après il faudra des conditions favorables pour que ça se reproduise.
Est-ce que tu y crois toi Pierre, dans le sport de haut niveau, tu casses un plafond de verre
et après
tu deviens une autre personne presque. Il y en a des exemples certainement,
ouais,
mais
il y en a, mais après c'est plus les conditions dans lesquelles il a gagné Roland.
C'est pas dans le rugby, t'en as vu toi des mecs qui un jour font une grosse performance et ils arrivent à se maintenir alors que tu t'y attendais pas, à un niveau énorme.
Ouais, il y en a mais qui éclos très tardivement pour différentes raisons perso, après dans les sports co c'est encore différent, mais
ouais bien sûr.
Mais là
mais ça dépend pas que de toi.
Voilà, mais dans les sports co. Mais là, moi c'est les conditions dans lesquelles Zverev a gagné Roland aussi. C'est peut-être un joueur de canicule. Peut-être qu'il est bien quand il fait super chaud. Mais non, c'est un peu dur.
C'est ce que tu disais pendant Roland même.
C'est un super joueur.
Il manquait du monde aussi.
C'est un super joueur. Je veux pas avoir l'impression de minimiser sa performance. Mais est-ce que il est comparable avec des joueurs du calibre de Sinner et Alcaraz? C'est ça. Quand on met Big Three, Big Four, on met les mecs, les joueurs ou les joueuses au même niveau. Et lui, il me paraît encore un ton en dessous. Donc c'est pour ça que je reste sur ma position.
Peut-être un peu comme au vélo, on a Pogacar et Vingegaard qui sont au-dessus et Remco Evenepoel est un peu derrière et aura peut-être du mal à accrocher un grand tour. Je ne sais pas si la comparaison est valable, mais on peut peut-être aller là-dessus. Eric, toi sur le match d'aujourd'hui, Sinner est redevenu un rouleau compresseur.
Oui, clairement, l'impression qu'il a dégagée contre Djokovic, c'était formidable. Djokovic, en conférence de presse, l'a dit, il a insisté sur l'extraordinaire service de l'Italien. Alors moi, je veux bien qu'on invite Zverev à la table, mais il faudra déjà qu'il batte Sinner. Vous avez vu les stats. Il a perdu les 9 derniers matchs contre Yannick Sinner.
Il a battu quand il
cette
était enfant,
année,
en fait.
Il a pris que des branlées cette année. Il faut quand même le souligner. Donc,
ah mais il fait chaud, peut-être que c'est bon pour lui.
Oui, il faisait un peu frais. Hier soir, quand j'ai quitté la maison, on était chez des amis là, pour voir le match de l'Angleterre. On supportait bien le petit pull. Hein, donc ça s'est un peu rafraîchi à Londres.
J'aime bien quand il raconte sa vie en plus au milieu, Eric.
Non, mais franchement...
T'as rien mangé?
Oui, on s'est fait un petit barbecue, c'était sympa.
Ah bah tiens, bon, écoute, c'est pas mal.
On verrait la photo de la French Press, ici à Wimbledon. On est quelques journalistes français. bosser.
Donc c'est pas la canicule. Non, mais en vrai, c'est une note importante. On rigole, mais il fera
non,
pas chaud.
Non, mais je suis pas mis dehors ce matin. Donc, je te cache pas. Hein. Mais hier, hier, il faisait chaud, mais c'est pas la canicule. Hein. Mais il soutient pas la comparaison avec Sinner, Zverev. Non. Regardez les matchs, les derniers matchs, c'est une horreur. C'est une horreur.
Mais la stat,
il l'a dit. Il y a un seul mec contre qui il n'arrive pas à s'exprimer, c'est Sinner. S'il le fait cet après-midi, chapeau, il aura deux chelems. Alcaraz 1, Sinner 0, et ça rebat les cartes, évidemment.
Ah, bah, ça aurait été le premier à enchaîner. Ouf. C'est par rapport à la stat que tu donnais tout à l'heure. T'as dit,
Depuis des années, ouais. D'enchaîner les Roland-Garros et Wimbledon.
Ouais.
Ouais. Bah, en tout cas, il aura fait comme Alcaraz il y a 2 ans, si jamais il y arrive de réussir à enchaîner, donc ça placera forcément un homme. On n'a pas parlé, Sarah, de la finale féminine qui s'est disputée hier entre les deux Tchèques, Noskova et Mukova. Et c'est Noskova la plus jeune, 21 ans, qui s'est imposée.
Ouais, une fois n'est pas
coutume. En 3-7, hein, ça a été chaud. Hein.
Ouais, une fois n'est pas coutume. On dit souvent que dans le tennis féminin, une jeune femme qui arrive en finale et qui n'a pas l'expérience des finales, elle est souvent prise par le poids de l'événement. Ça a quasiment été le cas puisqu'elle a mené 6-2, 5-2 et puis elle a eu du mal à terminer. Mais c'est vrai que c'est la plus jeune d'entre elles qui remporte ce tournoi du Grand Chelem à Wimbledon et c'est ce que je vous disais hier. C'est alors là, je m'adresse à vraiment des spécialistes de tennis. C'est que il y a une vraie école du tennis tchèque sur le gazon. Parce que c'est la troisième en 4 ans.
Et oui.
Troisième tchèque en 4 ans après Vondrousova, Kvitova, qui remporte, Wimbledon. Ah oui, pardon, j'ai dit qui?
Kvitova.
Non, Vondrousova en 23 et Krejcikova en 24. Mais il y a eu Kvitova, évidemment, avant, qui en a gagné 2. Et donc, Noskova, bon, là, c'est vrai qu'on est sur, on n'est pas sur des noms qui sont flamboyants et qui font la une de tous les journaux du monde entier, hein. Il faut que, voilà. Il faut suivre le tennis féminin pour apprécier ce tennis tchèque. Mais voilà, encore une fois, quand on retrouve pas les meilleurs noms dans les derniers carrés, c'est dur au tennis féminin d'exister, malheureusement.
Ouais, effectivement, c'est vrai qu'on a pas revu les stars aller au bout, en tout cas de ce Wimbledon féminin. 17h tout à l'heure, Eric Sinner, Zverev, 17h heure française, hein, te plante pas, il y a
un décalage horaire avec. Et à 14h, on a Kristina Milovic en finale du double dame.
Ah, bien sûr.
Pas oublié.
Elle va le faire.
Ah, je sais pas, elle joue avec une chinoise.
D'accord. Bah écoute, ça nous donne des données. Ouais, ça nous donne de vraies données.
Ne le dis pas sur ce ton-là.
Ça nous donne de vraies données pour connaître ses chances. Hein.
Bah, je préférais quand elle gagnait avec Caroline Garcia, Sarah. Ça, c'était plus sympa.
Il y a notre spécialiste, hein, je sais pas.
Non, mais ce que vous comprenez pas, c'est que ça fait 15 jours qu'il est à Wimbledon. Et bon, avec les Anglais, à manger des fraises à la chantilly toutes les semaines, il commence à s'éteindre un peu.
Il fait froid en plus. En plus, la petite laine le soir et tout, c'est dur. C'est une vie difficile que tu nous proposes. Hein. Et toi, tiens, ton pari, ça va se jouer en combien, Sinner Zverev?
Ça va se jouer en 12h22.
Non mais en combien de sets? Sinner gagne 3-7.
Sinner gagne en 4-7.
Sarah?
Ouais, je pense qu'il peut aller shipper un 7, ouais.
Il va aller pas. J'ai l'impression que personne ne voit Zverev gagner, hein. Peut-être Pascal.
Non, mais pourquoi? Enfin,
5-7. Moi, je dis 5-7.
Ah, moi, je suis d'accord avec toi, Pascal. Ça va être
3-7, moi.
3-7. Bon, bah, écoutez, on va voir. En tout cas, on va suivre ça à 17h.
Oui, 3-7 pour qui, Pierre?
Pour Sinner. Bah, c'est le mec qui devient complètement schizophrène. Complètement à contre-courant de ce qu'il a dit depuis 2 secondes. Allez, merci Eric. Évidemment, on se retrouve aux commentaires. Dans un instant, les Gilets, on prend l'ordre de Lauréane. On va remonter en 2006. On va retrouver Zizou qui a envoyé les Espagnols à la retraite. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport avec Pascal Duprat, avec Pierre Rabadan et avec Sarah Pitkowski. Tiens, Sarah, dans un instant, on va faire le vestiaire, la peur de tomber malade quand on est sportif de haut niveau. Sarah qui s'est réveillée avec une grosse migraine ce matin. Mais qui est là? Qui est là au rendez-vous? Donc ça veut dire que quand même. Ça, c'est l'esprit de résilience, c'est sportif.
Parce que c'est qu'un effort intellectuel là que je fais, un gros effort intellectuel.
J'essaie
de me surpasser.
Bon bah écoute, l'important c'est de s'hydrater, hein. C'est le mec qui toutes les heures va rappeler qu'il faut s'hydrater.
Mais il faut le faire.
Encore plus quand on a une migraine. Hein. Là, j'avoue, migraine, canicule, c'est quand même le combo de l'enfer. Allez tout de suite les GG, on va remonter le temps au 27 juin 2006. France-Espagne en 8e de finale de la Coupe du Monde. C'est la dernière fois qu'on s'est affronté avec la Roja dans la compétition et la seule fois. Et Zidane avait envoyé les Espagnols à la retraite.
Oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit.
Coéquipier, on est maintenant à 9, 8 minutes de la fin. Ce serait crucial, important de marquer maintenant. Au deuxième poteau, non ! Il est !
Moi j'ai la chair de fou. Voilà, je vous le dis, je suis assez sensible sur ce truc-là. En plus, vous avez eu les commentaires de Thierry Gilardi, le regretté oui. Thierry Gilardi, évidemment à l'époque sur TF1. Ça redonne des poils, hein, franchement.
Ah ouais, c'est vrai, moi,
ça fait toujours quelque chose.
Thierry Gilardi et Zidane, c'est le combo qui
le combo frisson, exactement. Et vous avez reconnu aussi Gilbert Bribois qui s'époune au monnaie sur RMC, sur les buts de l'équipe de France. Victoire des Bleus 3-1 à l'époque à Hanovre. David Villa avait ouvert le score sur penalty avant les buts de vas-y mon petit Ribéry, Vieira et Zizou à la 90e. Souvenez-vous, Zizou qui avait célébré en célébrant une marche. En célébrant une marche de vieux, voilà. Je vais le dire tout simplement comme ça. Pourquoi ? Parce que quelques jours avant le match, le quotidien espagnol Marca avait titré Zidane, te vamos a jubilar. Zidane, nous allons t'envoyer à la retraite. Parce que souvenez-vous, c'était la dernière Coupe du Monde de Zidane. Et je me rappelle du commentateur à la télévision espagnole, après le but de Zidane, avait dit Zidane nos jubilo a todos. Zidane nous a tous envoyés à la retraite.
Fred nous disait que ça lui a coûté cher au gars qui a fait ce
Ouais, effectivement, là, ils ne le font plus, hein, Marca. Le quotidien, ils essaient plus de chauffer les Français avant le match. Pascal, souvenir incroyable ce huitième de finale.
Ah ouais, c'était certainement c'est le chef-d'œuvre de Zidane. Et je me souviens de la phrase en conf de presse d'Aragonès, le sélectionneur espagnol, qui dit on a de jeunes joueurs dans notre équipe et il faut qu'ils prennent des leçons du match d'un match comme celui-ci. Donc c'était presque en réponse aux provocations sur le fait que Zidane allait être à la retraite après ce match-là. Bon, il y avait tout et cette année il n'a pas le ballon d'or Zidane. C'est Luis Figo qui l'obtient. Et
non, c'est Cannavaro qui l'a après la finale en 2006. Ouais. Bah, parce qu'il perd la finale en fait.
Ça joue à peu de choses, mais à rien du tout. Mais bon. Pour moi, Zidane, c'était l'apogée. Enfin, mieux encore que la Coupe du Monde.
Ah, mais il y a le match, il y a la montée en puissance derrière contre le Brésil, hein, souvenez-vous. Ouais, c'est un récital. Non, mais ce match contre l'Espagne, t'en souviens, Pierre ?
Oui, bien sûr, je me souviens très bien. Et c'est une sorte de magie. Hein, voilà, et c'est vrai que dans le contexte qui était celui de l'époque, on a répondu de la meilleure des manières dans un scénario où on est mené et derrière on enchaîne quoi.
Ils sont trompés les Espagnols en cherchant Zidane avant le match.
Bonjour, Là, c'est sûr qu'on peut le dire, c'est facile à dire maintenant, mais ouais, je pense qu'ils sont bien plantés. Ouais.
Non, mais voilà, ça fait partie du folklore. Évidemment, il faut rappeler le contexte aussi. Hein, la France sortait d'une phase de poule ultra difficile. Souvenez-vous, on est sorti de manière un peu laborieuse le dernier match face au Togo. Et après, ça a été de monter en puissance. Sarah, ça t'a marqué, toi, cette dernière danse de Zidane là, ça rappelle le bon souvenir.
Bah, en fait, pour être très franche, quand on en a parlé hier, j'arrivais plus à situer le match et donc retourner parce que parce que enfin moi 2006 ce qui me marque tellement c'est l'Italie en fait j'arrivais plus à me souvenir des matchs d'avant et donc je suis parce que c'est génial on peut aller revoir les meilleurs moments des matchs et effectivement je me suis remise dans ce match avec la tension avec ce penalty parce qu'on est mené 1-0 hein face à l'Espagne
bien sûr.
Donc je me suis remise dedans et c'est vrai que c'est là que les souvenirs reviennent et l'impact de Zidane dans cette équipe une telle classe enfin bon il C'est assez extraordinaire et je trouve qu'effectivement que ça soit lui en plus qui marque le dernier but pour faire 3-1, ça assoit les choses quoi. Mais voilà, en tout cas, ça m'est parvenu comme Pascal le dit. J'ai eu besoin de me replonger dedans.
Mais en moi, fait, je pense que c'est important justement, Sarah, avant des matchs comme celui-là, là, comme le France-Espagne qu'on va avoir en mardi, de se replonger dans l'histoire. C'est ce que font beaucoup d'ailleurs les étrangers où il y a cette culture sport de rappeler les Argentins. Le faire à fond, de reparler des Argentines d'Angleterre évidemment, avant le, et pour d'autres raisons aussi, avant la demi-finale mercredi, mais de se rappeler aussi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans l'émotion, Pascal, sur aussi la force offensive qu'a l'équipe de France aujourd'hui, mais ça nous rappelle ce qu'on avait aussi avant, Zidane, Henry, Franck Ribéry. C'est le match. Il y a des matchs comme ça qui font exploser à la gueule de tout le monde un joueur. C'est le match de Ribéry où il rentre dans le cœur des Français, Pascal.
Ouais, où il se révèle, c'est le joyeuse dream et extraordinaire joueur aussi, Ribéry, avec un comportement toujours positif. T'avais envie de le voir bon, quoi. Tu le voyais au Bayern faire ses simagrées avec le public, communier, et en équipe de France, eh bien, il s'est aussi révélé. Aussi parce qu'il y avait le maestro qui était Zidane. Comme en 84, alors quand je vous disais tout à l'heure que j'étais vieux, en 84, je me souviens de Platini au championnat d'Europe.
Le France-Espagne et la finale.
Ah, France-Espagne.
Avec l'erreur d'Arconada.
Arconada, mais un truc de fou.
On rappelle pour les plus jeunes, c'est Platini qui tire un coup franc. Il le tire, c'est pas un puissant,
c'est
pas puissant. Et en fait, le gardien qui s'appelle Arconada, veut récupérer la balle. En fait, elle lui file entre les gants et les jambes. Et du coup, c'est pour ça qu'on appelle maintenant ce geste une Arconada.
Une Arconada, voilà. Et bien, ça marque, c'est pour ceux qui étaient, on va dire, majeurs, matures à cette époque-là, en 84. Et puis ensuite, 2006, Zidane, c'est comme 98, enfin, si tu es un passionné de foot, ça te marque. Et ce qui va se passer dans les prochains jours, ça va nous marquer aussi.
Mais Didier Deschamps, il doit passer des VHS là avec 84 et 2006, Pascal.
Ah, il a tout, ce type. Il est impressionnant, encore une fois. Il peut pas finir autrement que ce que nous évoquions hier. Pour ma part, je pense qu'il va aller au bout. Qui mérite d'aller jusqu'au bout pour tirer sa révérence.
Didier Deschamps qui aime jamais trop qu'on parle du passé d'ailleurs. Il veut surtout être dans le présent et d'aller dans la confrontation prochaine pour aller se motiver. C'est pas mal parfois, Pierre, d'aller chercher les choses dans le passé,
oui,
non, pour se motiver.
Après, je pense que les joueurs, quand on parle de France-Espagne 2006, même si pour certains ils avaient quelques jours, voire même certains étaient.
T'as raison, c'était il y a 20 ans.
Mais je pense que voilà, Zidane et cette épopée de la Coupe du Monde, la finale avec un peu dramatique, forcément était dans toutes les têtes. Et je pense que ils ont fait comme Sarah et moi d'ailleurs. on s'est remis les vidéos et ils voient de quoi on parle.
Est-ce que les Espagnols l'ont oublié? Ça, c'est la question qu'on pourra se poser aussi avant mardi, parce que les Espagnols, c'était leur seule confrontation Coupe du Monde. Ils ont face aux Français. Ils ont certainement envie de renverser peut-être ce traumatisme pour eux, même s'il s'est passé 2-3 trucs pour les Espagnols depuis. Ils ont été champions du monde. Je pense que tout va bien dans leur tête quand même. France-Espagne, évidemment, dans deux jours. Nouvel épisode, nous aussi, à Dallas. Est-ce qu'on aura une dramaturgie? Est-ce qu'on aura un match mythique encore? On a envie d'y croire quand même, et que ça tourne à l'avantage des Français. Alors, on revient dans un instant dans les grandes gueules du sport pour le vestiaire. Et puis, on va parler de l'Argentine qui est passée par un trou de souris hier, mais qui est toujours là. Est-ce que cette Argentine immortelle vous fait peur un petit peu? Est-ce que vous la craignez? Tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.